Ile-de-France. Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98FM.
Bonjour, vous êtes sur IDFM Radio 98FM, il est 18h et c'est l'émission Entre chien et loup qui commence. Je suis Iftar Mathieu-Séchez, je suis percussionniste de formation et musicologue conférencière et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau programme consacré à la musique de film. Pour rappel, on se retrouve les 1er et 4e mardis du mois, donc de 18h à 19h dans l'émission Entre chien et loup. Au cours de ces émissions, on aborde ensemble des sujets variés qui auront pour comme point commun la diffusion et le partage de la culture musicale, car c'est toujours ce qui m'anime, vous apporter plein d'infos autour de la musique. Aujourd'hui encore, un programme consacré à la thématique de la musique de film. Lors de la dernière émission, on a abordé ensemble Fantasia, sorti en 1940, et aujourd'hui je vous propose la suite logique, Fantasia 2000, sorti exactement en décembre 1999. Dans le premier Fantasia, donc sorti en 1940 et que j'ai abordé la dernière fois, nous avions un long métrage d'environ 2 heures qui se présentait comme un concert avec une introduction de chacun des morceaux par un monsieur qui s'appelait Dimmes Taylor, qui était un compositeur, critique musical et homme de radio. Dans Fantasia 2000, ce n'est pas une personne qui va faire les présentations de chacun des morceaux, mais ça va être différentes personnalités américaines. Même si Fantasia 2000 n'a été fait qu'en 1999, il faut savoir que c'était un projet de Disney lui-même de faire un second opus avec des musiques sur lesquelles son studio allait mettre des animations. C'est donc bien après la mort de Walt Disney, hein, puisqu'il est décédé en décembre 1966, que son neveu a pris le relais et a produit ce Fantasia 2000. Nous retrouvons le chef d'orchestre américain James Levine. Je rappelle que dans le premier opus, nous avions Leopold Stokowski. Et pour commencer ce deuxième opus de Fantasia, eh bien, nous allons avoir la 5e symphonie de Beethoven, et plus précisément le premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven, cette symphonie si reconnaissable par sa cellule de 4 notes, 3 brèves, 1 longue, qui est extrêmement reconnaissable et que l'on retrouve à travers tout le premier mouvement. Mais si vous écoutez toute la symphonie, on la retrouve vraiment tout du long, d'un bout à l'autre de la symphonie. Pour cette introduction, c'est un lien avec le premier numéro qui a été fait, puisqu'on entend Dimmes Taylor faire l'introduction de l'opus de 1940. Ils ont repris le même avec l'idée de dire qu'il y a plusieurs genres de musique et parmi elles, les musiques qui n'ont pas de vocation à raconter quoi que ce soit ou même pas vocation du tout à évoquer des images, donc de la musique pure. Et c'est dans ce cas que se trouve la toccata et fugue en ré mineur que nous avions pour ouvrir Fantasia, sortie en 1940, et c'est aussi donc une musique de ce cas-là que nous avons pour ouvrir Fantasia 2000, c'est donc la 5e symphonie de Beethoven.
Thank you.
venons d'entendre à l'antenne le premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven dans la version que l'on retrouve dans Fantasia 2000 et c'est une version dirigée par le chef d'orchestre américain James Levine. Et c'est entre le premier morceau et le deuxième que nous faisons connaissance du premier présentateur que l'on retrouve dans Fantasia 2000. Il y a donc entre chaque morceau une personnalité différente. Et c'est le grand violoniste né en 1945, Isaac Perlman, qui introduit donc le morceau suivant, qui en l'occurrence sera plusieurs extraits d'un morceau en plusieurs mouvements. Et le compositeur, c'est Ottorino Respighi, compositeur du italien du XXe siècle. Et en l'occurrence, l'œuvre que l'on entend dans Fantasia 2000, c'est Les Pins de Rome. C'est un poème symphonique en quatre parties. Dans le premier opus de Fantasia, nous avions vu qu'il y avait l'apprenti sorcier de Paul Lucas, qui est d'après un poème du même nom de Goethe. Là, nous nous retrouvons dans le cas d'un poème symphonique, cette fois-ci donc en plusieurs parties. Et ici, ce sont les pins, donc les arbres de Rome, qui ont inspiré cette musique à Ottorino Respighi. C'est en quatre parties donc, et on va avoir comme extrait dans Fantasia 2000 le premier mouvement, des extraits du troisième et des extraits du quatrième et dernier donc mouvement qui compose ce poème symphonique qui date du début du XXe siècle. Étant donné le titre, Les Pins de Rome, on pourrait s'attendre à voir des ruines romaines, des soldats romains. Eh bien, ce n'est pas du tout ça que le studio Disney a fait comme illustration pour ce passage. Non, ici, on voit une famille de baleines dans des endroits glaciaux de la planète.
Thank you.
Ce sont des extraits de l'œuvre qui s'appelle « Les pins de Rome » de Ottorino Respighi que nous venons d'entendre à l'instant sur IDFM. Je disais tout à l'heure que « Les pins de Rome », c'est un poème symphonique donc de Respighi en quatre parties. Et il faut savoir que avant et après avoir composé « Les pins de Rome », eh bien Ottorino Respighi avait déjà avant été inspiré par la ville du Rome, puisqu'il a écrit une œuvre qui s'appelle « Les fontaines de Rome », qui était aussi en quatre parties, et qui a été composée en 1916. Et en 1928, donc 4 ans après « Les pins de Rome », qui date de 1924, il a composé là aussi un poème symphonique, toujours en 4 parties, 4 mouvements, qui s'appelle « Les fêtes romaines ». Donc la ville de Rome a beaucoup inspiré ce compositeur italien du XXe siècle. Avant de passer à l'œuvre suivante et donc au compositeur suivant que l'on retrouve dans « Fantasia 2000 », je voulais vous faire écouter 2 autres extraits. Nous venons d'entendre un morceau qui s'appelle la danza, donc la danse, écrit à l'origine par Gioachino Rossini, donc compositeur lui aussi italien, mais de la fin du 18e et du début du 19e siècle. C'est un morceau donc qu'il avait composé pour piano et voix. C'est le 2e extrait que nous avons entendu. Et dans la première partie de l'extrait, nous avons entendu ce morceau en version uniquement instrumentale. Et la version instrumentale a été faite par Ottorino Respighi, c'est comme ça que je reviens à mon compositeur des Pins de Rome, pour une œuvre qu'il a écrite, qui s'inspire de plusieurs œuvres de Rossini, qui s'appelle La boutique fantasque. Et, pour la petite anecdote, ce passage, la danza en version orchestrale, donc dans la version d'Ottorino Respighi, a été utilisé dans un film, en l'occurrence le film Le Corneau, sorti dans les années 60, film avec Louis de Funès et Bourvil. C'est le grand compositeur, interprète, producteur américain Quincy Jones qui introduit l'œuvre suivante que l'on retrouve dans Fantasia 2000, œuvre qui a été composée par George Gershwin. Mais avant de vous présenter l'œuvre en question et de vous dire quelques mots sur le compositeur George Gershwin, écoutons un peu de Quincy Jones. Et oui, c'est Quincy Jones qui est à l'origine en tant que compositeur et à l'origine en tant aussi qu'interprète avec son orchestre de ce morceau qui s'appelle Soul Bossa Nova et qui a trouvé sa place aussi dans la musique de film puisque c'est la musique qui est aujourd'hui rattachée au film Austin Powers. Comme promis, donc, quelques mots sur le morceau suivant et sur son compositeur George Gershwin. George Gershwin est né en 1898 et il est mort malheureusement bien trop tôt à l'âge de à peine 39 ans puisqu'il est décédé en 1937. C'est un compositeur qui a investi aussi bien le chant de la comédie musicale et de la variété, donc de la scène de Broadway. Il a aussi écrit un petit peu de la musique de film, donc il a aussi travaillé à Hollywood, mais il a aussi investi donc la scène musicale classique, tout en mélangeant dans sa musique classique des éléments de langage du jazz qui était tout récent à l'époque, puisque le jazz est né en 1917 seulement. C'est l'œuvre Rhapsody in Blue que l'on retrouve dans Fantasia 2000, qui se trouve être une œuvre de 1924, comme le poème symphonique Les Pins de Rome dont on a entendu des extraits il y a quelques instants. Rhapsody in Blue, vous savez, c'est ce morceau qui commence par cette grande montée à la clarinette qui est repérable entre mille musiques. Mais surtout, c'est une œuvre qui met en avant le piano solo et on va écouter donc des extraits de ce qu'on entend donc dans Fantasia 2000. Ici, les dessins, ce sont tout simplement une représentation de New York, le New York du travail, avec différentes personnes, différentes classes sociales qui se réveillent le matin et vont travailler. Et je vous propose de découvrir tout de suite ces passages.
We'll be right back.
d'entendre sur IDFM des extraits de l'œuvre Rhapsody in Blue de George Gershwin, œuvre écrite en 1924, mettant en avant un piano. Et ici, c'était la version de Fantasia 2000 que l'on écoutait, puisque c'est le sujet du jour, et l'interprétation était faite par James Levine à la tête de l'orchestre. Vous êtes toujours sur IDFM. Jusqu'à 19h, nous sommes ensemble dans l'émission Entre chiens et loups. Je suis Ishtar Mathusséchez, musicologue conférencière, et aujourd'hui, je vous parle de Fantasia 2000, sortie en décembre 1999. Pour le morceau suivant, nous allons en Russie pour retrouver le compositeur Dmitri Shostakovich, qui a écrit beaucoup d'œuvres très difficiles, y compris difficiles d'accès à l'oreille, mais aussi difficiles à jouer. Mais il a aussi écrit certaines œuvres beaucoup plus simples. Et voici un premier extrait avant d'écouter des extraits de l'œuvre qui est utilisée dans Fantasia 2000. Vous avez reconnu cette mélodie au saxophone? C'est la fameuse valse numéro 2 tirée de la suite pour orchestre de variété numéro 1 de Dmitri Shostakovich, et ça fait donc partie des œuvres les plus simples du compositeur. C'est un compositeur donc qui a été marqué par l'Union soviétique, et donc sa musique est largement empreinte de cette période sombre de son pays, avec beaucoup de ses symphonies ou de ses quatuor à cordes. Des symphonies, il en a écrit 15, qui sont parfois avec des rythmes et des mélodies très dures. Mais ce n'est pas le cas donc de cette valse, et ce n'est pas non plus le cas de l'œuvre que l'on entend dans Fantasia 2000. En l'occurrence, c'est son concerto pour piano numéro 2. En l'occurrence, les concertos pour piano qui il a écrit, il avait comme idée que des élèves de piano n'aient pas forcément besoin d'avoir un très très grand niveau pour jouer ces concertos. Donc c'est une musique relativement, j'ai bien relativement simple que l'on va entendre. Et ici, les hommes de Disney, enfin les hommes, les studios Disney ont choisi d'adapter Le Soldat de Plomb, qui a été écrit par Andersen, sachant que Andersen, c'est lui aussi qui a écrit le conte qui est Casse-Noisette, donc qui a inspiré le ballet de Tchaïkovski, et c'est aussi lui qui a écrit le conte La Petite Sirène ou encore La Reine des Neiges. Et l'œuvre de Dmitri Shostakovich, que l'on retrouve dans Fantasia 2000, donc son concerto pour piano numéro 2. Donc je rappelle qu'un concerto, c'est traditionnellement une œuvre en trois mouvements distincts, un rapide, un lent, un rapide, mettant en avant un instrument soliste, ici donc le piano. Et ce morceau est introduit par l'américaine Bette Midler. And the steadfast tin soldier. Thank you. Chien et Loup sur IDFM Radio 98 FM. Nous venons d'entendre des extraits du concerto pour piano numéro 2 de Dimitri Chostakovitch, compositeur russe du 20e siècle, et c'est une des œuvres, que l'on entend dans Fantasia 2000, sortie en décembre 1999, et c'est cette œuvre-là, ce long métrage-là, que je vous présente aujourd'hui. C'est encore une autre personnalité américaine qui a introduit le morceau suivant et qui va nous emmener d'ailleurs en France. Mais la personnalité, elle, bien sûr, est américaine. Et voici un extrait d'un film dans lequel on entend cette personnalité américaine dont je vous dis le nom dans quelques instants. Mais d'abord, ce son. It is useless to resist. Don't let yourself be destroyed as Obi-Wan did. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Et oui, vous l'aurez reconnu, c'est la voix de Dark Vador dans la version originale de la saga Star Wars. Et la voix de Dark Vador dans les films Star Wars en version originale, c'est James Earl Jones, acteur né en 1931. Et c'est lui qui introduit donc le morceau suivant, qui est un morceau français, puisqu'il s'agit d'un extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Le Carnaval des animaux, donc, c'est une des œuvres les plus célèbres de Camille Saint-Saëns. C'est le final que l'on entend dans Fantasia 2000, et c'est une œuvre dans laquelle il y a de l'humour, puisque parmi les animaux que Saint-Saëns a introduit dans son œuvre, il y a les pianistes. Alors, et bien évidemment, il était pianiste lui-même, donc c'est une marque de dérision, une marque d'humour, puisque les pianistes dans cette œuvre sont représentés en train de faire leur gamme. Ici, pour ce court-métrage, ce sont des flamants roses que l'on voit, et la question qui est posée, c'est: qu'est-ce qui arriverait si on donnait un yo-yo à un flamant rose? Et nous avons la réponse lorsqu'on voit le court-métrage, c'est le dessin animé le plus court qu'on retrouve dans Fantasia 2000, donc on a la réponse au moment où on le voit. On voit donc plusieurs flamants roses avec un d'entre eux qui a un yo-yo et qui met un petit peu le bazar au milieu de ses congénères. We'll be right back. Entre chien et loup sur DFM, on vient d'entendre le final du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, compositeur français décédé en 1921 qui, pour je le rappelle, a été à l'origine de la première musique de film de l'histoire. C'était en 1908 pour un film d'André Calmette, film muet bien sûr, qui s'appelait L'assassinat du duc de Guise. Pour le morceau suivant, nous restons en France puisque nous allons retrouver l'apprenti sorcier de Paul Dukas. Et oui, on retrouve ce même morceau dans la même version que dans le film de 1940. Et il se trouve donc que c'est exactement la même version, donc la version de Léopold Stokowski et non pas la version de James Levine qui est le chef d'orchestre de Fantasia 2000. Et on retrouve également exactement le même dessin animé. Dessin animé donc, qui représente Mickey et qui va essayer de prendre la place de son maître, qui est le magicien, qui en l'occurrence s'appelle Yen Sid. Et si vous regardez Yen Sid à l'envers, ça donne Disney. Pour rappel, c'était ce court-métrage, donc là on peut le voir peut-être comme un hommage à l'opus numéro 1, qui était à l'origine la volonté de Disney. Et donc ensuite, il avait commencé à échanger avec Léopold Stokowski et ensuite de discussion en discussion. C'est ainsi qu'ils sont arrivés à construire donc le numéro 1 qui est Fantasia, qui est une juxtaposition de courts-métrages basés donc c'est sur des musiques classiques existantes et c'est exactement la même chose qui est fait dans Fantasia 2000. Donc on va réécouter, ça fait toujours plaisir, l'apprenti sorcier de Paul Dukas dans la version donc de 1940 que l'on entend dans Fantasia et dans lequel donc on voit Mickey, la petite souris qui avait été créée en 1928.
Thank you.
Dans le premier opus de Fantasia, nous avions donc l'apprenti sorcier et nous avions également Une nuit sur le mont Chauve, deux poèmes symphoniques. Ici, nous avons également deux poèmes symphoniques puisque nous avons à nouveau l'apprenti sorcier d'après l'œuvre du même nom de Goethe et nous avons eu aussi donc tout à l'heure les Pins de Rome de Torino Respighi qui ont été illustrés donc par les studios Disney par une famille de baleines que l'on voit en Antarctique dans les glaces de l'Antarctique. Et je n'ai pas précisé, mais ici, ce n'est pas un hasard si ce sont Ben and Taylor, donc c'est un duo, qui introduisent à l'apprenti sorcier, puisque en l'occurrence, Ben et Taylor est un duo d'illusionnistes américains. Et quoi de mieux que des illusionnistes pour introduire l'apprenti sorcier? Et avant que je vous explique ce qui se passe en introduction du morceau anglais des morceaux anglais en l'occurrence que l'on retrouve dans Fantasia 2000, écoutons cette mélodie. Vous venez d'entendre sur IDFM dans l'émission Entre chiens et loups et nous sommes ensemble jusqu'à 19h un extrait de la marche numéro 1 Pomp and Circumstance du compositeur anglais Edward Elgar. Et en l'occurrence, c'est la partie centrale de cette œuvre que l'on entend, c'est une œuvre très britannique, très élégante, sur laquelle, là on l'a entendu uniquement en version instrumentale, qui est la version originale, mais il faut savoir que des paroles ont été mises en 1902, sachant que l'œuvre, elle, date de 1901, sur cette partie, et les paroles sont « Land of Hope and Glory », donc c'est-à-dire « Pays d'espoir et de gloire ». Il faut savoir que c'est à l'instigation d'Édouard VII, le futur roi à l'époque, que les paroles ont été mises. Donc, cette mélodie, avec les paroles Land of Hope and Glory, a été chantée lors du couronnement de ce roi, Édouard VII. Cette mélodie est probablement la plus célèbre des Pomp and Circumstance de Edward Elgar, mais il faut savoir que le compositeur a écrit 5 marches entre 1901 et 1930, toutes appelées Pomp and Circumstance, et donc c'est numéro 1, 2, 3, 4 et jusqu'à 5, donc étalé sur 29 ans. Et en l'occurrence, le titre Pomp and Circumstance s'est tiré d'un extrait de l'acte 3 de Othello de l'auteur anglais de théâtre Shakespeare. Et c'est donc des extraits des marches de Pomp and Circumstance de Edward Elgar que l'on entend dans Fantasia 2000. Ici, c'est le chef d'orchestre, James Levine, donc lui-même, qui introduit le court-métrage qui aura comme base musicale plusieurs extraits des marches Pomp and Circumstance d'Edward Elgar.
Thank you.
Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission Entre chien et loup. Je suis Ishtar et je vous accompagne jusqu'à 19h sur le sujet de Fantasia 2000. Et là, nous venons d'écouter des extraits de plusieurs marches Pomp and Circumstance du compositeur anglais du début du XXe siècle, Edward Elgar, et c'est toujours James Levine qui dirige. Et le court-métrage donc, que l'on voit dans Fantasia 2000 comme accompagnement, comme support pour ses musiques, eh bien, c'est une scène de l'Arche de Noé dans laquelle on voit aussi Donald et Daisy, personnages créés par Walt Disney, respectivement en 1934 et 1937, et donc respectivement 6 ans et 9 ans après Mickey. Après l'Angleterre de Edward Elgar, on retrouve un compositeur russe après Dmitri Shostakovich, puisqu'on retrouve le compositeur de ballet, notamment il a composé beaucoup d'autres choses, bien entendu, Igor Stravinsky. Dans le premier opus de Fantasia, sorti en 1940, ce sont des extraits du Sacre du Printemps, ballet créé en 1913 à Paris, donc ballet qui a fait scandale que l'on entendait. Et ici, dans Fantasia 2000, ce sont des extraits du ballet L'Oiseau de Feu, créé en 1910, toujours à Paris, en l'occurrence à l'Opéra de Paris, sachant que le Sacre du Printemps avait été créé au Théâtre des Champs-Élysées. Et nous avons donc, dans L'Oiseau de Feu, un conte national russe. C'est là-dessus donc que se base Igor Stravinsky pour son ballet. Et nous allons entendre plusieurs extraits, dont la danse infernale de Katchei et la berceuse. La danse infernale de Katchei, ça va être le passage extrêmement dynamique, très rythmé. Et la berceuse, c'est un autre passage célèbre de ce ballet. Ça va être beaucoup plus doux et c'est un passage qui présente un solo de l'instrument qui fait partie des bois, le basson. C'est donc L'Oiseau de Feu créé en 1910 à Paris, que nous venons d'entendre à l'antenne d'IDFM. Plusieurs extraits de ce ballet sont utilisés donc dans Fantasia 2000. En l'occurrence, le court-métrage montre une forêt avec un joli esprit qui va apaiser la forêt après un incendie créé par l'oiseau de feu. Avant de nous quitter, puisque l'oiseau de feu c'est la dernière œuvre que l'on retrouve dans Fantasia 2000, je voulais vous faire écouter un extrait que l'on n'entend pas dans Fantasia 2000, mais qui appartient donc à l'œuvre, au ballet qui est l'oiseau de feu, et qui est un passage que j'aime beaucoup et que je voulais du coup vous partager. En l'occurrence, c'est l'introduction de ce ballet, l'oiseau de feu. Je vais vous faire écouter un extrait, et en l'occurrence c'est extrêmement sombre, ça crée une ambiance assez inquiétante, et en l'occurrence ce sont au tout début les violoncelles et contrebasses qui ont cette mélodie piano, et tout va s'intensifier au fur et à mesure. Et c'est donc sur cet extrait de l'Oiseau de feu, ballet d'Igor Stravinsky, créé en 1910, en l'occurrence c'était un extrait de l'introduction de ce ballet, que se termine mon émission du jour Entre chien et loup. J'espère que vous avez apprécié le répertoire que je vous ai partagé aujourd'hui, que vous avez pu apprécier les différents extraits que l'on a écoutés ensemble et que j'ai pu mettre en contexte, comme je fais depuis plusieurs émissions, et notamment déjà avec la dernière, avec Fantasia 2000. Je vous remercie donc pour votre écoute, et on va se retrouver le 28 février, toujours à 18h, pour un nouveau numéro ensemble de l'émission Entre chien et loup. Vous pouvez réécouter cette émission et d'autres émissions de la grille sur www.idfm98.fr, nous écouter aussi partout dans le monde avec l'application IDFM, et enfin vous pouvez nous suivre et nous contacter via les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt.
Partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.